22h passées de 20 secondes, vous écoutez Europe 1. Tout de suite, le journal, Isabelle Millet.
Bonsoir à tous, voici les titres de votre journal et ils ont une nouvelle fois dit non. Les députés britanniques ont massivement rejeté ce soir l'accord de Brexit. On sera à Londres dès le début de ce journal avec Anaïs Cordoba. L'Union européenne a fait tout ce qu'elle a pu, dit ce soir le négociateur en chef Michel Barnier. Le ciel mondial se ferme au Boeing 735 Max pratiquement partout sauf aux États-Unis. Bernard Tapie se défend bec et ongle au deuxième jour de son procès. Il a rejoué aujourd'hui le feuilleton de la revente d'Adidas, réaffirmant avoir été volé par le Crédit Lyonnais. Le défenseur des droits, Jacques Toubon, veut suspendre l'utilisation des lanceurs de balles de défense. Réponse du ministre de l'Intérieur, les forces de l'ordre en ont besoin pour faire face à l'hyper-violence de certains. Après l'Aliès, le doute, les Algériens réclament de nouvelles élections rapides. Et si c'était une ruse, pas question qu'Abdelaziz Bouteflika prolonge son quatrième mandat. L'Olympique Lyonnais, prêt pour son huitième de finale, retour de Ligue des Champions à Barcelone demain. Les équipes d'Europe 1 aussi qui vous font vivre ce match en direct et en intégralité. Côté météo, ce mercredi s'annonce agité, venteux et pluvieux. C'est ce que nous dira à la fin de ce journal Elena Morna. Et puis comme chaque soir à 22h20, vous avez rendez-vous avec l'interview écho d'Emmanuel Duteil. Emmanuel qui reçoit ce soir Patrick Bernasconi, le président du Conseil économique, social et environnemental.
Europe 1.
C'était donc l'heure de vérité ce soir à la Chambre des communes et les députés britanniques ont une nouvelle fois retoqué l'accord de Brexit. Anaïs Cordoba, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Londres. Le Royaume-Uni plongé ce soir dans l'inconnu sur son avenir à 17 jours de la date prévue de la sortie de l'Union européenne et ce, malgré les ultimes modifications obtenues hier soir par Theresa May.
Theresa May a réussi à convaincre une poignée de Brexiteurs, mais elle a échoué à empêcher une défaite humiliante. 391 députés ont rejeté son accord contre 242. À l'annonce du résultat devant le Parlement, pro-européens et pro-Brexit ont crié victoire. Les partisans d'un second référendum estiment que cette défaite rend plus probable la tenue d'un nouveau vote sur la sortie de l'Union européenne. Les militants pro-Brexit, eux, veulent une sortie sèche, sans accord avec l'Union européenne. Cette option qui sera soumise au vote demain sera certainement rejetée par les députés. Jeudi, Theresa May leur demandera alors de s'exprimer sur la possibilité d'une extension des négociations.
L'Union européenne voudra savoir ce que nous voulons faire avec cette extension. Et la Chambre des communes devra répondre à cette question. Voulons-nous révoquer l'article 50 ou la tenue d'un second référendum? Voulons-nous sortir avec un accord différent de celui-ci? Ce sont des choix peu enviables.
Si cette extension est votée, il n'est pas exclu que Theresa May tente pour la troisième fois de faire passer son accord au Parlement britannique.
Anaïs Cordoba, correspondante d'Europe 1 à Londres. Du côté de l'Europe, les premières réactions. L'Union européenne a fait tout ce qu'elle a pu, dit le négociateur en chef Michel Barnier. L'impasse peut uniquement être surmontée par le Royaume-Uni. Même réaction à l'instant à l'Élysée. La solution à l'impasse ne peut être trouvée qu'à Londres. La France dit regretter le vote de ce soir, mais précise qu'en aucun cas elle ne pourrait accepter une extension de la date du Brexit sans une stratégie alternative et crédible de la part du Royaume-Uni. Alors la perspective de ce Brexit, vous savez qu'elle inquiète beaucoup les douaniers français notamment, qui sont en grève du zèle depuis une semaine pour réclamer des effectifs et des moyens supplémentaires. Eh bien, ils ont obtenu aujourd'hui une enveloppe de 14 millions d'euros. Les syndicats vont maintenant soumettre cette proposition aux agents qui décideront ou non de continuer ce mouvement. La CGT Douane a d'ores et déjà annoncé que le compte n'y était pas. Quant au secrétaire général de la CFDT Douane, il est sceptique, il aimerait avant tout savoir à quoi va servir cet argent.
Il faut voir, on n'a pas discuté comment ça peut être réparti, est-ce que c'est réparti par grade, est-ce que c'est réparti par branche, c'est qu'on a des branches d'activité, des agents d'uniforme, des agents qui travaillent dans les bureaux. Il y a des sujets sur la pénibilité du travail, les heures de nuit. Ça dépend vraiment ce qu'on en fait. T'es 14 millions, vous pouvez avoir dans votre budget de l'argent et puis en faire n'importe quoi, au final, il n'a servi à rien. Quoi. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on a perdu 6 000 emplois en un peu plus de 10 ans. C'est la santé des agents qui paye. Alors on leur demande de faire des heures de nuit à gogo. On a des agents dans des services, dans des bureaux, je ne rentre pas dans le détail technique, mais qui voilà, on voit plus leur tête puisqu'on voit que des dossiers quand on rentre dans le bureau qui sont submergés de travail. Donc on se croirait pas dans un pays moderne, quoi. Donc il y a beaucoup de choses sur la table. Il faut vraiment qu'on prenne le temps de tout poser.
David Olivier Caron, secrétaire général de la CFDT Douane, il répondait à François Geffrier pour Europe 1. Et c'est désormais l'ensemble de l'espace aérien européen qui est interdit jusqu'à nouvel ordre au Boeing 737 MAX 8, deux jours après le crash en Éthiopie qui a fait 157 morts. Alors que deux accidents impliquant ce modèle d'avion ont eu lieu en quelques mois, la liste des pays qui interdisent leur espace aérien n'a cessé de s'allonger au fil de la journée. La France, notamment, au nom du principe de précaution, comme l'explique la ministre des Transports Elisabeth Borne.
Un premier accident s'était produit sur un avion du même type en octobre dernier en Indonésie. Suite à ce premier accident, l'autorité de sécurité américaine avait donné un certain nombre de prescriptions. Aujourd'hui, dans l'attente des éléments de l'enquête, dans l'attente des décisions de l'autorité de certification américaine et européenne, nous avons préféré, à titre conservatoire, suspendre ces vols. Étant entendu qu'aucune de nos compagnies n'est équipée de ce type d'avion, il y a un certain nombre de compagnies qui utilisent des 737 MAX pour des dessertes avec la France, en nombre très limité, mais on a préféré suspendre ces vols à titre conservatoire.
La ministre des Transports, Elisabeth Borne, au micro européen d'Adrien Beck. Alors bien sûr, l'enjeu économique dans cette affaire est énorme. Plus aucun Boeing 737 MAX au-dessus de l'Europe. En revanche, il continue à décoller et à survoler les États-Unis. Vous nous le confirmez, Xavier Yvon, vous êtes le correspondant d'Europe 1.
Oui, il y a en ce moment des 737 MAX 8 dans le ciel américain. En tout, 58 Boeing de ce type sont opérés par deux compagnies ici, American Airlines et Southwest. Et leurs passagers sont très inquiets. Ils prennent d'assaut les standards téléphoniques pour savoir d'abord s'ils vont voler sur un 737 MAX 8. Et puis si oui, pour annuler ou changer leur billet. Mais la FAA, qui est l'équivalent de notre Direction Générale de l'Aviation Civile, considère, elle, que le 737 MAX 8 est toujours un avion sûr. Elle a juste demandé à Boeing des changements dans le logiciel de pilotage, ce que le constructeur avait déjà prévu. Mais la pression monte, des syndicats de personnel navigant et des élus de poids réclament que les États-Unis, à leur tour, clouent au sol le 737 MAX 8. L'enjeu, vous l'avez rappelé, c'est évidemment économique. Ce sera symboliquement un coup très dur pour Boeing, qui est l'entreprise américaine qui exporte le plus.
Xavier Yvon, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis, où Donald Trump a tweeté pour déplorer que les avions soient devenus trop complexes à piloter. Pourquoi toujours chercher un nouveau développement inutile alors que souvent, écrit-il, ce qui est vieux et simple fonctionne bien mieux. Le président américain qui s'est entretenu par téléphone avec le patron de Boeing, ce dernier lui a assuré que le 737 MAX 8 était sûr et fiable.
Isabelle Millet sur Europe 1.
Il est 22h07, merci d'écouter Europe 1. Le défenseur des droits Jacques Toubon a remis ce matin son rapport annuel, rapport sévère, en particulier avec la politique de maintien de l'ordre en France. Jacques Toubon reproche notamment l'utilisation des LBD, les fameux lanceurs de balles de défense.
Ils ont sûrement leur utilité dans les interventions individuelles. En revanche, dans le contexte des opérations de maintien de l'ordre, il y a dans l'utilisation de ces affiches une dangerosité, et nous l'avons vu parce que nous avons des dizaines de cas depuis des années, ça ne remonte pas à quelques semaines. Cela mérite que on fasse un moratoire et que l'on regarde s'il ne faudrait pas effectivement suspendre la dotation en LBD 4046 dans le cadre du maintien de l'ordre. C'est pour protéger l'intégrité de tous, c'est une sorte de principe de précaution.
Le ministre de l'Intérieur au micro de Guillaume Bié du service police-justice d'Europe 1. Un homme de 29 ans qui s'était fait passer pour une victime des attentats du 13 novembre, condamné aujourd'hui à 3 ans de prison ferme. Il lui est reproché d'avoir escroqué de 77 000 euros le fonds de garantie des victimes. Il avait à l'époque déclaré se trouver avec deux de ses amis au Bataclan, ce que l'enquête a démenti. Il avait même présenté un faux billet. La mort à 59 ans de Jean-Louis Jourdain, l'un des frères Jourdain, condamné à perpétuité pour avoir séquestré et tué 4 jeunes filles sur une plage du Pas-de-Calais, c'était en 1997. Les frères Jourdain, qui avaient été surnommés les Siamois de l'horreur. Le deuxième jour du procès de Bernard Tapie, aujourd'hui il a été question de la genèse de l'affaire Adidas Crédit Lyonnais. L'homme d'affaires a été interrogé. Et Chloé Triomphe, on peut dire qu'il s'est régalé. Bernard Tapie a occupé tout l'espace en reprenant l'histoire dans ses moindres détails.
Oui, exactement. Et il y a une phrase qui résume à elle seule l'état d'esprit de Bernard Tapie cet après-midi. C'est lorsque la présidente lui propose de faire une suspension d'audience pour se reposer vers 17h et qu'il répond du tac au tac. Ah non, non, je suis tellement content de parler. Car effectivement, malgré sa fatigue visible sur un visage émacié par un cancer de l'estomac, Bernard Tapie a cet après-midi littéralement occupé l'espace. Debout à la barre, habité par son affaire, il a repris l'historique Adidas depuis le départ pour dire et redire ce qu'il a toujours affirmé, c'est-à-dire son sentiment d'avoir été dupé par le Crédit Lyonnais qui a effectué une grosse plus-value en revendant Adidas pour le compte de Tapie à Robert Louis Dreyfus. Alors Bernard Tapie, justement toujours adepte de formule choc, l'a ainsi résumé. Quand on a dit partout que j'étais un pilleur, un dépensier, que j'ai ruiné l'État, eh bien la vérité c'est que j'ai touché 230 millions et que la banque a encaissé 3 milliards sur la transaction. J'ai donc récupéré moins de 10% de ce que l'État, via le Crédit Lyonnais, a gagné. Alors pendant une heure et demie, quasiment sans contradiction ni question, Bernard Tapie a donc livré sa version, aidé lors de défauts de mémoire par ses avocats au procès et même par son avocat historique aujourd'hui sur le banc des prévenus comme lui, Maurice Lantourne. Mais c'est réellement demain qu'il sera interrogé sur le cœur du procès, c'est-à-dire sur la fraude présumée, sur l'arbitrage qui lui a valu des années plus tard d'obtenir plus de 400 millions d'euros de réparation dans son combat face aux Lyonnais.
Chloé Triomphe qui suit pour Europe 1 ce procès de Bernard Tapie au tribunal correctionnel de Paris. Au lendemain du renoncement d'Abdelaziz Bouteflika à briguer un cinquième mandat, les Algériens s'interrogent, eux qui ont accueilli la nouvelle avec liesse hier soir, commencent à douter. Et si c'était une nouvelle manœuvre ? Aucune date en effet n'a été fixée pour l'organisation de nouvelles élections présidentielles. L'ancien chef du gouvernement Ali Benflis, opposant à Abdelaziz Bouteflika, est lui aussi très inquiet pour la suite. Il était l'invité d'Europe 1 ce soir. Le peuple algérien, dit-il, n'est pas dupe.
Je serai parmi les manifestants, il n'y a aucun doute. Vendredi, ça sera une grande journée du peuple algérien, tout à fait pacifique. On voudrait être souverain, le peuple veut reprendre sa souveraineté. Il doit décider de qui doit diriger les pays, de qui doit quitter la direction des affaires du pays. Les Algériens ne peuvent pas se laisser faire. Le peuple veut d'une deuxième république. La deuxième ne peut pas être fondée par ceux qui ont conduit le pays à la dérive, par ceux qui ont gouverné 20 ans. Par ceux qui ont dépensé 1000 milliards et qui n'ont rien fait pour l'économie, le peuple n'est pas dupe.
L'opposant Ali Benflis, ancien Premier ministre algérien, qui était l'invité du grand journal de Mathieu Béliard, ce soir sur Europe 1. Le navire de commerce italien Grande America, victime d'un incendie dimanche soir dans le golfe de Gascogne, a coulé cet après-midi à 300 km des côtes françaises par 4600 mètres de fond au large du Finistère. Tous les passagers qui se trouvaient à bord avaient pu auparavant être évacués sains et saufs. Mais le ministre de la Transition écologique redoute le risque de pollution. Il envisage des mesures. Aux États-Unis, deux célèbres actrices inculpées pour pot de vin, Felicity Huffman, qui jouait Lynette dans la série Desperate Housewives, et Lori Loughlin de La Fête à la Maison. Elles auraient toutes les deux acheté des intermédiaires pour obtenir des places dans des universités prestigieuses pour leurs enfants qui, visiblement, n'avaient pas les notes adéquates pour entrer dans ces universités. Le foot et le PSG qui se déplaçaient à Dijon ce soir en Ligue 1, sans la plupart de ses supporters qui sont très fâchés après l'élimination en Ligue des Champions. Les Parisiens se sont un peu rassurés. En tout cas, ils se sont imposés 4-0. Il y a deux autres matchs en cours. En huitième de finale, retour de la Ligue des Champions en ce moment. Juventus-Turin, Atlético Madrid. Et ce sont les Italiens qui mènent 2-0. Et puis Manchester City, Schalke 0-4. Domination très nette pour l'instant des Mancuniens, 3-0. Et puis demain, à cette heure-ci, nous serons en train de vibrer avec l'Olympique lyonnais pour son huitième de finale, retour de Ligue des Champions à Barcelone, que l'on vivra ensemble sur Europe 1. L'OL qui a obtenu un nul 0-0 à l'aller. Et qui sait que ce serait un exploit, évidemment, de s'imposer posé au Camp Nou. À 24 heures du choc, Bruno Genesio, l'entraîneur lyonnais, veut en tout cas rester lucide, optimiste, mais prudent.
Le conseil, c'est de jouer notre jeu, d'être libéré. On sait ce qui nous attend ici, on sait que ce sera difficile, on sait qu'on a face à nous une des meilleures équipes européennes, voire du monde. Mais on sait aussi qu'on est capable de faire un exploit, parce qu'on l'a déjà fait. Bien évidemment, d'avoir beaucoup d'humilité pour aborder ce match, mais aussi beaucoup de confiance en nous. Et puis de tout donner, de faire plaisir aux supporters qui vont être en nombre ici et de montrer qu'on est à notre place en venant jouer la qualification ici à Barcelone.
Bruno Genesio, l'entraîneur lyonnais au micro européen de Christophe Lamarre. Lyon qui pourra compter notamment sur son capitaine Nabil Fekir, suspendu à l'aller et qui pourra jouer cette fois. Et puis rendez-vous donc demain pour revivre ce match en direct et en intégralité sur Europe 1 dès 20h avec Lionel Rosso et ses invités. Et puis, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour les Rennais qui, eux, joueront jeudi leur 8e de finale retour de Ligue Europa contre Arsenal. En tout cas, Alexandre Lacazette, l'attaquant d'Arsenal, a vu sa sanction allégée par l'UEFA. Il avait manqué le match aller, il sera là au match retour. Et on jette un œil tout de suite sur la météo avec vous, Elena Morna. Vent fort, averse intense, le programme météo est plutôt agité.
Instabilité, Isabelle, que l'on doit à la dépression tempétueuse nommée Garrett. Sur son passage, les vents changent brusquement de direction, entraînant d'ailleurs un changement de température assez brutal sur les régions du Nord-Ouest cet après-midi. Alors demain, on aura encore du vent sur le Nord-Ouest, mais dans une moindre mesure qu'aujourd'hui. Vent et averse sous un ciel couvert, ça va quand même s'éclaircir l'après-midi, on aura toujours un petit risque d'averse. Plus agité sur le sud-ouest, Auvergne-Rhône-Alpes et nord-est, dans le vent, sous les averses localement orageuses et accompagnées de grésils, de la neige à basse altitude sur tous les reliefs, 500 mètres, 700 mètres, petite zone d'éclaircie et encore du vent en région PACA, instable sur la Corse, pluie ou neige, là aussi à partir de 1200 mètres. Alors demain sera la journée qui mettra un terme à notre longue séquence de douceur. Depuis un mois, nous étions au-dessus des normales de saison. Demain, on va limite basculer en dessous, avec 8 à 17 degrés l'après-midi de Langres à Bastia, 11 au Havre, comme à Strasbourg et Clermont-Ferrand, 12 à Brest, à Lille, Bourges et Auxerre, 13 à Paris, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Lyon, 16 à Perpignan et Marseille. Alors ce temps instable va nous faire la semaine une accalmie provisoire prévue pour samedi.
La météo signée, Elena Morna sur Europe 1.
Europe 1.
Et dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Didier Hamot de boursier.com. Juste avant, l'invité écho d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir Patrick Bernasconi, le président du Conseil économique, social et environnemental. A tout de suite sur Europe 1.
22h, 22h30, le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Et à 22h17 sur Europe 1, comme tous les soirs, bien sûr, on s'intéresse à la bourse avec vous, Didier Hamot, rédacteur en chef de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Isabelle.
Et Wall Street qui reste soutenu par les valeurs de technologie ce soir.
Les technologiques montent encore, mais Boeing baisse toujours. Cela donne un indice Nasdaq en hausse de 0,44%, 7591 points, mais un Dow Jones en repli de 0,38%, 25 554 points. Le nouveau rejet du plan de Theresa May dans le cadre du Brexit n'a en revanche pas eu d'impact sur les marchés. C'était très attendu, très anticipé. Mais la décision de l'Agence européenne de sécurité aérienne de suspendre les vols de Boeing 737 MAX a fait chuter en revanche le titre Boeing de 6% supplémentaire, $375. Le titre avait déjà perdu 5% hier. Ça pèse donc sur la tendance sur le Dow Jones. En revanche, donc, ça monte encore sur les valeurs de technologie. Apple plus 1,1% au-dessus des $180. Intel plus 0,4%. IBM plus 0,4% aussi. Amazon est stable. Le pétrole stable aussi à $56,85 le baril. L'euro remonte juste sur les 1,13 face au billet vert.
Et la Bourse de Paris, elle, Didier, a terminé proche de l'équilibre.
On fait du sur place, autour des 5270 points. Il ne se passe pas grand-chose. 5270 points exactement, plus 0,08%. Les investisseurs attendent le nouveau vote du Parlement britannique demain sur un Brexit sans accord cette fois. Alors, pas beaucoup de prise de risque, on va dire. Les grandes valeurs, on peut varier. Bouygues, moins 0,8%. Michelin, moins 0,7%. Peugeot, moins 0,7% aussi. Renault, moins 0,3%. Après l'annonce de la création d'un nouveau conseil opérationnel de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Il y a quand même un gagnant, c'est Airbus, un gagnant par défaut, qui profite des déboires de Boeing donc pour gagner 1,4%. Airbus à 114,58€.
Et puis, exception du jour, Didier, le titre showroom privé qui a grimpé de plus de 10%.
Oui, le site de vente en ligne s'emballe en hausse de 10,3% exactement, 3,15€. En attendant les comptes du groupe, c'est pour demain soir. Le chiffre d'affaires devrait plutôt approcher les 680 millions d'euros. Showroom privé en hausse de 10,3% à la clôture ce soir. Pas beaucoup d'évolution sur les autres places financières. Le DAX perd 0,17% à Francfort, Bruxelles plus 0,3%, Madrid moins 0,1%, l'Italie, Milan stable, Londres plus 0,3% et le CAC 40 donc en hausse de 0,08%, 5270 points.
Merci beaucoup Didier Hamot, rédacteur en chef de boursier.com pour ce tour d'horizon très détaillé. Et à 22h20 sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver l'invité écho, Emmanuel Duteil. Vous recevez ce soir le président du Conseil économique, social et environnemental.
Bonsoir Patrick Bernasconi.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le président du Conseil économique et social et environnemental. Alors on ne le sait pas toujours, mais celui qu'on appelle le CESE, c'est la troisième chambre constitutionnalisée à côté de l'Assemblée nationale et du Sénat. Elle est composée de membres de la société civile, comme par exemple des représentants patronaux, des représentants des syndicats. On y trouve également beaucoup de représentants du monde associatif. Alors si on a eu envie de vous inviter ce soir, c'est que vous avez présenté ce matin au Premier ministre votre contribution au grand débat. On ne vous avait rien demandé, c'est vous qui vous êtes auto-saisi pour dire « nous, CESE, on a des choses à dire ». Mais justement, est-ce que vous n'avez pas regretté, vous, patron du CESE, de ne pas avoir vu cette crise venir? Quand on est représentant de la société civile, vous ne l'avez pas plus vu que les autres?
Je vous demande de regarder, il y a 3 ans, ce que l'on a fait dans un rapport qu'on produit chaque année, qui est le rapport annuel sur l'état de la France, qui est basé sur une dizaine d'indicateurs complémentaires du PIB. Et dans ce rapport, qui est obligatoire, qui est un rapport demandé par le Premier ministre, nous avons intitulé ce rapport, il y a trois ans, « Réconcilier la France ». Parce qu'on voyait bien arriver ces sujets de fracture territoriale, de fracture sociale. Et on voulait évidemment qu'on puisse y apporter.
Alors est-ce que vous ne regrettez pas de ne pas l'avoir fait? Est-ce que vous ne regrettez pas de ne pas vous être fait mieux entendre? Est-ce que ce n'est pas le problème du CESE?
C'est l'un des sujets, par exemple, de la réforme constitutionnelle. C'est-à-dire comment on fait pour que des avis qui sont réalisés au CESE puissent être demain mieux entendus. C'est un sujet, puisque lorsqu'on parle par exemple de transition énergétique, on a fait un avis sur la justice climatique, par exemple, qui est un excellent avis, dans lequel on a des propositions très concrètes pour répondre, par exemple, à ce qu'on a entendu, par exemple, sur les ronds-points. Alors, aux carburants, voilà, comment on peut accompagner ces foyers demain qui sont les plus mal lotis? Comment on fait que cela ne soit pas laissé sur le bas-côté? Donc, la réforme constitutionnelle, le projet de réforme constitutionnelle qui était à l'œuvre à l'Assemblée nationale, dedans, il y a comment on peut être plus institutionnalisé, donc plus regardé, plus écouté. C'est un des enjeux de la réforme constitutionnelle.
Alors quand on va regarder les contributions des Français, on parle très peu de vous, mais quand on parle de vous, on demande votre suppression. Pourtant ce matin, Édouard Philippe vous a fait, comment on pourrait dire, une petite déclaration d'amour. Il vous a dit, on va vous renforcer et on va surtout vous garder. Déjà vous avez poussé un ouf de soulagement? Vous êtes sauvé?
Moi je ne suis pas inquiet du tout sur le CESE. D'abord, la seule fois où on a voulu le supprimer, c'est sous Vichy. On l'a supprimé à ce moment-là. Et ça montre quand même une époque particulière.
Au-delà de Vichy, quand on parle d'économie et du train de vie de l'État, on entend quand même souvent
oui,
supprimer
mais
le CESE.
Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de démocratie qui fonctionne sans outils. Et si on veut que cette démocratie puisse bien fonctionner, elle a 3 outils à sa disposition. Il y a la représentation, le système représentatif,
l'Assemblée nationale
et le Sénat, avec le mode électif que l'on connaît. Et ils font la loi. Ils sont législatifs. Et puis, il y a la partie consultative, donc la démocratie participative. Et le CESE n'est rien d'autre que l'Assemblée de la démocratie participative. On y retrouve, vous l'avez dit, toutes les associations importantes de ce pays. On est cette Assemblée...
Mais est-ce qu'elle est assez représentative? Parce que souvent, on critique, là aussi, vos petits copains du Sénat ou de l'Assemblée nationale. On pourrait dire pareil au CESE, où des fois, on se dit, ah, c'est les anciens copains qui ont perdu un mandat patronat, syndical, qu'on retrouve là.
Aujourd'hui, quand vous regardez la composition du CESE, vous retrouvez l'ensemble des organisations d'employeurs, elles sont toutes là. Vous retrouvez l'ensemble des organisations salariales, syndicales, elles sont toutes là. Vous regardez l'ensemble des associations importantes de ce pays, elles sont toutes là. Donc aujourd'hui, la représentativité du CESE, elle n'est peut-être pas parfaite, mais elle est assez, je dirais, assez intéressante.
En tout cas, pour ce grand débat, vous avez été précurseur, puisqu'avant même que le gouvernement dise « on va tirer au sort des Français pour leur demander leur avis », vous, cet avis que vous avez remis aujourd'hui au Premier ministre, vous l'avez fait avec des Français tirés au sort. Qu'est-ce que vous en avez retiré comme leçon?
L'important pour nous, c'était d'enrichir en fait le CESE. Les organisations ont besoin de sourire. Elles ont besoin d'être les capteurs de ce qui se passe dans la société française. Écoutez, le mieux pour en parler, il faudrait que vous les invitiez. Vous verriez à ce moment-là combien ils ont été...
Mais on y était ce matin, Europe 1 était là.
Très positif par rapport à leur expérience.
Et
très
du
positif.
Coup, dans l'idée de se dire on va renforcer le CESE, on va le rendre peut-être plus représentatif et plus utile, en tout cas c'est quelque chose que vous aimeriez.
Évidemment que c'est un outil très intéressant pour une institution comme la nôtre, parce qu'on doit incarner ce trait d'union entre les citoyens et les pouvoirs publics. On doit être capable, nous, de traduire des intérêts individuels en une parole collective et de cette parole collective en dégager l'intérêt général. C'est l'objectif que l'on s'est fixé.
C'est l'objectif. Alors je vais regarder quand même les propositions que vous avez faites ce matin au Premier ministre. Un revenu minimum social garanti qui n'intègre pas les allocations logement, la refondation globale de la fiscalité, rétablir les APL comme elles étaient avant, l'encadrement des loyers en zone tendue. C'est pas que des mesures qui font plaisir au gouvernement, ça. Il vous a dit quoi, Édouard Philippe?
Banco, je prends tout.
Ben pour l'instant, le gouvernement ne peut pas dire grand-chose puisque le grand débat n'est pas terminé. Et
non, donc, mais vous avez déjeuné avec le président de la République la semaine dernière. Vous avez bien pu lui glisser toutes ses idées.
D'abord, je ne vais pas révéler la teneur de nos échanges avec le président de la République.
Vous avez parlé de vos avis quand même.
On a parlé de la construction de cet avis. On a parlé des sujets qui circulaient dans le cadre du grand débat, mais aussi au CESE. Et en fait, ces sujets de justice sociale, ces sujets aussi de fracture territoriale, ces sujets autour de la santé sont évoqués partout. Moi, je me suis aussi rendu dans un certain nombre de régions, discuté avec des citoyens. Voilà, ils ont tous à peu près la même expression sur la mobilité, comment on a accès au logement, comment on a accès au travail, comment on a accès à la culture.
Voilà. Mais donc, justement, maintenant, quand on voit ce qui remonte, pardonnez-moi de vous couper, mais quand on voit ce qui remonte, on voit que l'accès aux soins est quasiment la chose plus importante. On voit que ce qui émerge de vos questionnements, c'est aussi primordial, une égalité fiscale et ce genre de choses. C'est bien gentil d'avoir fait ce tableau maintenant, mais est-ce que vous avez eu une assurance du Premier ministre ou du Président de la République ?
Ah, c'est au pouvoir public de répondre par rapport à nos
propositions. Mais ils auraient pu déjà vous dire, c'est pas mal votre taf,
là,
oui, on va y
aller. C'est trop tôt, compte tenu du timing du grand débat, je pense que c'est trop tôt. Je pense qu'on est dans les bonnes propositions. L'avantage du travail du CESE, d'abord c'est une assemblée constitutionnelle, ça veut dire que les 80 organisations membres du CESE ont voté cet avis, et ont dit clairement quelle était leur position, par rapport à cet avis. Et puis derrière, au pouvoir public de décider. Il est évident qu'un certain nombre de ces propositions, un travail plus fin doit être fait. Et il y aura sans doute des lettres de commande qui viendront du gouvernement pour aller plus loin. Et on travaillera sur le sujet. Et si ce n'est pas le cas, nous travaillerons sur ces sujets. Nous proposerons des choses. Parce que évidemment, on doit apporter des réponses plus concrètes par ailleurs.
Eh bien, on va suivre tout ça. Un grand merci d'être passé ce soir par les studios d'Europe 1. Patrick Bernasconi, le président du CESE, le Conseil économique, social et environnemental, était notre invité ce soir. Je ne vous dis pas à demain soir, ce qui paraît qu'il y a un match de football demain. Barcelone-Lyon. On souhaite bonne chance à Lyon et nous, on se retrouve jeudi soir, 22h20.
Il paraît, en effet, on vous dit à jeudi. Merci beaucoup, Emmanuel Duteil. Et dans un instant, on jette un œil sur les unes de vos quotidiens. À tout de suite sur Europe 1. Et voici donc ce que vous découvrirez demain à la une de vos quotidiens. Les députés britanniques infligent un nouveau camouflet à Theresa May. C'est à la une du Figaro. Accord qualifié de celui de la dernière chance, à 17 jours de la date prévue du divorce et qui a donc été rejeté ce soir par 391 voix contre 242. Brexit, retour à la case départ, titre pour sa part Libération. Mélasse, pudding et marshmallow, l'invraisemblable charivari du Brexit continue. Dans une Grande-Bretagne qui veut sortir de l'Union sans en sortir vraiment, mais tout en n'y restant pas. C'est ce qu'écrit Laurent Geoffrin dans Libération. En Algérie, la jeunesse dit non aux prolongations, titre l'Humanité. La contestation se poursuit alors que le régime tente, en dehors de la légalité, de prolonger le mandat du président. Renault et Nissan scellent leur nouvelle alliance. Et c'est à la une du journal Les Échos. Une nouvelle gouvernance a été annoncée pour l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Les décisions seront prises par consensus au sein d'un conseil présidé par Jean-Dominique Senard. L'alliance tourne définitivement, cette fois, la page de l'époque Carlos Ghosn. Le journal Les Échos, dans lequel Benoît Georges revient également sur le dossier Boeing. On en parlait tout à l'heure dans le journal. La liste des pays qui ferment leur espace aérien au Boeing 737 MAX ne cesse de s'allonger. Désormais, c'est l'Europe tout entière qui interdit son espace aérien à cet avion en attendant de connaître les causes du crash d'un appareil de ce type en Éthiopie dimanche dernier. Le principe de précaution joue à plein en Asie et en Europe, clouant au sol le fleuron de l'avionneur américain. Tandis qu'aux États-Unis, en revanche, les Boeing 737 MAX, eux, continuent de voler. L'aviation civile américaine n'a jusqu'à présent pas jugé nécessaire de suspendre les vols. Voilà donc pour un aperçu de ce que vous retrouverez demain matin à la une de vos quotidiens. Et je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute d'Europe 1. Elle sera excellente forcément puisque vous êtes en compagnie de Sophie Peters pour la Libre Antenne. Bonsoir.
Merci,
Sophie.
Bonsoir Isabelle, ravie de vous retrouver. Et on reste avec vous encore une partie de la nuit, donc je vous dis à tout à l'heure.
À tout à l'heure.